OK. Hey, c'est la semaine de relâche, on vous l'a dit. Venez nous rejoindre au Salon de l'Auto de Québec. Il y a d'autres choses aussi à faire pendant la semaine de relâche. C'est l'événement Papillon en fête 2024. As-tu déjà été au Centre Jardin Amel?
Souvent.
C'est de toute beauté, cet événement-là. Puis que vous soyez adulte ou encore enfant, il faut aller à Papillon en fête. Et on a le plaisir de jaser avec Marc Lamontagne, qui est là, directeur du Centre Jardin Amel, qui est avec nous. On a plein de questions à lui poser concernant les opérations. T'sais. Comment on fait pour avoir autant de papillons dans une volière? Ça commence quand, la préparation pour Papillon en fête?
Les années de façon délicate, Yannick, tu en touches un des fois, puis tu l'as tué quand t'es jeune, puis c'est super mal, imagine.
Exact, exact. Mais quoique, ce que je comprends, du moins quand j'ai été au Centre Jardin Amel, les gens sont très respectueux des papillons parce qu'ils veulent les conserver le plus longtemps possible. Monsieur Lamontagne, bon midi, merci d'être là.
Bonjour Yannick et Pascal, même si je ne vous vois pas, ça, je vous entends très bien.
Pensiez-vous un jour être éleveur de papillons?
Oh, ça remonte à très longtemps. Hein? C'est la 22e édition cette année. Là. Alors, ça a repris depuis 4 ans. Là. Et c'est ça, là, c'est toujours fantastique à voir pour tout le monde. Les enfants, c'est merveille. Hein? Vous l'avez déjà vu, je crois. Alors, c'est les fameux papillons morpho, les bleus, là, qui sont vraiment spectaculaires. Alors oui, c'est tantôt, vous, un peu en introduction, vous disiez, bon, ben ça commence longtemps d'avance. Hein? Ça commence souvent au mois de septembre avant. Où on doit faire nos demandes là, de permis, etc. Là, alors, c'est très réglementé. Et après ça, il faut tout penser au processus de commande de papillons qui, évidemment, on ne les commande pas comme ça. Hein. Ils nous arrivent dans des cocons. On appelle ça des chrysalides. Et ils nous arrivent quelques semaines avant, en janvier, là, et début février. Et là, on va les installer dans des incubateurs.
De chaleur,
beaucoup de chaleur en passant, mais c'est ça, ça prend environ 26-27 degrés Celsius. Alors, il faut chauffer nos deux grandes serres, là. C'est 10 000 pieds carrés de superficie, toutes meublées en plantes tropicales, bien naturelles. Et évidemment, les papillons, quand ils commencent à se développer, à sortir, vont aller se nourrir là, sur les plantes à fleurs, là, un petit peu partout dans la serre. Alors, c'est vraiment
spectaculaire. Les cocons arrivent d'où?
Les cocons arrivent un peu partout à travers le monde. Je vous dirais beaucoup dans du côté asiatique et aussi Costa Rica. C'est une des... en Amérique centrale. Là. Et c'est ça, ça nous parvient là, par transport adapté, évidemment, donc chauffé, pour bien les protéger. Et là, ça nous arrive à toutes les semaines. Donc, environ un millier à peu près par semaine, là, grosso modo. Et on va retrouver jusqu'à entre 35 et 50 variétés différentes, c'est-à-dire espèces différentes de papillons. Donc, j'ai parlé du morpho bleu, là, mais pour ceux qui ont déjà été, il y en a de toutes les couleurs. Il y a même du monarque, il y a des vice-rois. Bon, c'est vraiment très, très variété. Les variétés, oui, sont vraiment là, puis des couleurs... Autant un est bleu-bleu, le morpho, d'autres vont être rouge et noir intense, un vert fluo avec du noir et des petites touches de blanc. Alors, c'est vraiment... Pour les enfants, c'est un endroit pour s'émerveiller, comme les adultes aussi. Et puis, il y a toujours un côté éducatif également, là, que vous pouvez voir. Là, on a installé des posters, des affiches pour vous permettre aussi de les identifier. Et on voit toute la fragilité de ça, comment c'est spécial. Mais ça vit, puis c'est beaucoup plus vigoureux qu'on pense. C'est comme ça là, qu'on peut peut-être aussi introduire les enfants, les plus jeunes, à des choses qui n'auraient pas vraiment vu, parce que quand on va dans la nature, des fois, on va faire toutes sortes de choses, d'activités, mais à un moment donné, ils vont s'arrêter après ça quand ils vont voir un beau monarque ou un autre papillon. Là. Alors, ça peut être exact. Très intéressant aussi là, pour montrer aux enfants ce que c'est la nature aussi.
Avec, ça fait plusieurs années que vous faites cet événement-là, Papillon en fête.
Oui.
Au départ, ça devait être tout un casse-tête. Ça prend des spécialistes du papillon qui vont vous dire bien, qu'est-ce que ça prend pour que le papillon puisse évoluer dans une volière puis avoir une bonne durée de vie, bien entendu. Aujourd'hui, vous avez toute l'expertise pour conserver ces papillons-là le plus longtemps possible.
Oui, en effet. Au début, c'est sûr que c'était toute une aventure. Moi, j'ai vécu même le début, la première année. Et puis, c'était vraiment quelque chose parce que là, c'était de s'ajuster au point de vue chauffage des serres. Il faut comprendre que cette année, là, ça va très bien. Là, c'est très doux. Là. Ça nous permet de sauver un petit peu sur le chauffage. Mais quand tu fais moins 25 dehors, il faut que la température se maintiennent entre 28 et 30 degrés Même la nuit, là, ça peut baisser un petit peu, mais il ne faut pas trop. Alors, donc, ça c'était le plus gros, peut-être un des plus gros problèmes à résoudre, là, de trouver vraiment les températures et l'humidité aussi. Des fois, là, s'il fait chaud, là, c'est certain que l'humidité aussi monte. Là. Alors, question d'aérer aussi, il faut le faire également là, pour que les gens soient à l'aise. Mais c'est ça. C'est surtout ça. Et aussi, au début, c'était le contact avec les fournisseurs et surtout ceux qui livraient. Parfois, c'était pas toujours évident. Ça arrivait des fois là, qu'on avait des arrivées de chrysalides là, qui n'étaient pas valables. Il fallait se revirer de bord très vite. Maintenant, ça n'existe pratiquement plus. Là. Ça fonctionne très bien. Là. Maintenant, ils connaissent les façons de faire. Là.
C'est ça. Mais vous avez vos spécialistes du papillon qui essaient de s'en occuper du mieux possible année après année.
Oh oui, ça roule très bien. Puis le matin, là, c'est ainsi, là, quand vous venez le matin, là, les morphos, là, il y en a peut-être 200 qui volent là, dans la serre. Là. C'est vraiment spectaculaire. Là. Puis c'est une activité qui peut être très intéressante en période de relâche, là, mais l'activité dure encore tout le mois de mars également. Alors,
c'est des beaux souvenirs d'enfance que j'ai, mais je me demandais, quand vous dites le matin, c'est la meilleure période le matin vu que les papillons bougent plus?
C'est toute la journée, je vous dirais, parce que le fait qu'ils viennent des gens, les papillons, bien, à un moment donné, ils se déposent un peu pour se nourrir, mais ça permet aux gens de mieux les voir aussi. Alors, tu sais, c'est très facile maintenant, puis c'est tellement peu dispendieux pour la relâche, là. C'est 0 à 3 ans, c'est gratuit. 4 à 12 ans, c'est 4,99. Pour un adulte, c'est 8,99. Alors, c'est facile pour une petite famille de venir, passer une petite heure, puis après ça, ils peuvent voir toutes sortes de choses possibles, là, au point de verticale par après, se rafraîchir, sortir la volière, mais ça va très bien, franchement. Là, si je compare aux premières années où des fois notre stationnement n'était pas aussi grand, maintenant c'est d'une facilité, il n'y a pratiquement pas de file d'attente comme telle. Là. Alors ça se fait très bien là, pour à peu près en période de journée, là, il n'y a pas vraiment de problème. Là. C'est vraiment une belle sortie agréable pour toute la famille.
Donc, c'est le grand retour de papillons en fête. Ça a déjà commencé, c'était le 22 février et ça se déroule jusqu'au 1er avril. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait après le 1er avril avec les papillons? On ouvre-tu les volières?
Ouais, c'est une bonne question, mais comme je vous disais tout à l'heure, on est sur un permis de l'OCIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est très sévère. Ouais. Il ne doit pas sortir aucun papillon vivant de là.
Ah,
donc,
ouais,
ce qu'on fait pour être gentil avec nos papillons, les papillons ont une durée de vie d'environ d'une à 3 semaines. Ça dépend des espèces.
Ah.
Alors, les premières espèces qu'on fait venir ont des périodes de vie plus longues. Prends le morpho, par exemple, le beau bleu. Et à ce moment-là, c'est ceux-là qu'on va faire venir en premier. Ils vont faire tout leur cycle de vie normal, vont mourir normalement. Ils vont peut-être même se reproduire. Des fois, on trouve des œufs sur les plantes. Et après ça, vers la fin, ben, on va utiliser des espèces qui vivent moins longtemps. Et après ça, ben, c'est facile. Ils vont mourir d'eux-mêmes, ou la plupart du temps, c'est ça. Il faut s'assurer, nous autres, qu'on baisse notre température à la fin pour être certain. Parce qu'il y a un inspecteur qui va venir du gouvernement fédéral. Il faut absolument que les plantes soient exemptes d'insectes vivants et d'œufs aussi. Donc, il faut faire les traitements appropriés là, pour s'assurer qu'il ne sortira rien de là. Évidemment, on sait pourquoi. Hein, ce que c'est, les virus, les bactéries, les ci et ça. C'est pas toujours juste pour l'être humain, mais c'est aussi pour l'environnement, notre environnement à nous.
On voudrait pas devenir l'épicentre de la maladie du papillon méchant.
Non, on ne voudrait pas passer la nouvelle puis que ça se rende en Chine, là. Mais vous me surprenez puis vous me rassurez, parce que vous me surprenez avec le 3 semaines de vie, mais vous me rassurez que certains ont trouvé l'amour en 3 semaines malgré tout.
Absolument, ça peut arriver.
Ce que je vois de votre belle gang, M. Lamontagne, au Centre Jardin à Metz, c'est que vous êtes très conscientisé sur le papillon, puis que vous vous assurez qu'il n'y a rien qui sorte de la volière, mais que tous les papillons puissent avoir leur vie qu'ils méritent, finalement. Là,
exactement.
C'est-à-dire un bel endroit, puis il dure le plus longtemps possible. En plus, comme Pascal dit, il a le temps de se reproduire, fait que tout va bien.
Bon, lui, il va se reproduire. Moi, je trouvais l'amour, mais bon, il nous décrit bien.
Exact. Donc, c'est le grand retour de papillons en fête du 22 février au 1er avril. 2024. Les tarifs, on l'a dit, pour les 0 à 3 ans, c'est gratuit. 4 à 11 ans, c'est 4,99 $. 12 ans et plus, c'est 8,99 $. Ça se déroule sur semaine de 9h jusqu'à 16h30. Le week-end, vous êtes ouvert de 8h jusqu'à quelle heure?
C'est à 17h.
Jusqu'à 17h la fin de semaine.
Oui,
parfait.
C'est ça.
Donc, on va passer faire un tour pour vous voir, M. Lamontagne, au Centre Jardin Amel.
Vous êtes tous les bienvenus. Merci à vous.
Merci à vous. Bye-bye.
Il y avait une question intéressante. Je ne sais pas si on est encore branché avec notre invité.
Oui.
Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de peur de papillons. Je m'excuse de revenir là-dessus, mais il y a des adultes qui nous ont dit « Moi, j'ai peur des papillons. Comment je peux faire? » Puis il y a aussi une maman qui vient de nous écrire une question précise. Sa fille de 4 ans a peur, mais littéralement peur des papillons. Puis elle voudrait faire en sorte que ça baisse un peu cette peur-là, ça disparaît. C'est-tu quelque chose à faire pour peut-être aménager ça?
Oui, bien, je vous dirais, moi, il me vient une idée présentement. En général, c'est plus sur les jeunes enfants. Là. Il peut toujours avoir des peurs chez les adultes aussi, pour d'autres raisons. Mais bon, chez les enfants, habituellement, si on y va lentement, puis on leur explique qu'on va rentrer, puis même, je vous dirais, avant d'entrer dans la voilière, on a un grand mur d'exposition de cadres avec des papillons dedans. Vous connaissez sûrement ça. C'est des papillons, des cadres qu'on vend, là, puis c'est des collectionneurs des fois qui vont acheter ça. Et peut-être leur présenter des papillons un petit peu avant. Ils ne bougent pas.
Mais prendre le temps, d'accord.
Prendre le temps, puis dire, les rassurer. C'est très doux. Ils vont peut-être venir vers toi, peut-être pas du tout. Puis je pense qu'en entrant, bien, peut-être leur préciser, regarde, on va aller voir le beau papillon bleu, compter un petit peu l'histoire du papillon bleu. Là. Et je pense que ça pourrait être une façon là, de les introduire, de les rassurer qu'il n'y a vraiment rien de dangereux. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est vraiment pas... c'est très doux comme approche. Là.
Ah, j'en doute pas. Un gros merci. Nous, on s'en va en musique, les amis. Merci d'être bien branchés sur Boulevard 102.1. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. Green Day!
J'espère que oui, parce que on est dans un endroit peu commun. Je vais vous le faire deviner, quoique les gars doivent l'avoir dit en masse ce matin, puis on l'a dit toute la semaine, mais admettons que je vous dis, je suis entre un Bronco rouge pétant, du genre style tomate ketchup, entre une Lamborghini orangée et une Porsche magnifique. Ça, c'est la plus belle, selon moi. Là. Oh, mon technicien Jordan dit que oui aussi. La belle Porsche grise magnifique et c'est propre comme un sous-neuf, ces voitures-là. Je suis où? Je suis en direct du salon de l'auto, oui, pour l'RCV. C'est quand même très, très comique pour moi d'être entourée de voitures pour faire cette émission-là. On vous invite toute la journée à venir au salon de l'auto, même que Marceau s'en vient dans quelques instants. Il va me laisser faire, en fait, l'RCV, puis après ça, il va s'en venir pour Marceau le midi. Puis on va faire ça en direct avec vous sur place. Donc, si vous avez envie de venir écouter l'émission de radio, nous rencontrer et surtout voir les beaux bolides de laquelle je suis entourée, c'est aujourd'hui que ça se passe et jusqu'à vendredi, en fait. Pour ceux qui viennent de se brancher, mon nom est Pascal CV. J'anime l'heure CV jusqu'à 11h. Aujourd'hui, comme je vous disais, du Salon de l'Auto au Centre de Foire. Puis, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, on va encore une fois parler d'actualité comme d'habitude. Jérémy Guillot sera avec nous aujourd'hui. On va parler d'immigration. Qu'est-ce qui se passe là, entre Ottawa et Québec? Gros bras de fer. Pourquoi est-ce que c'est toujours avec Québec qu'il y a des problèmes avec Ottawa? On va aller explorer tout ça puis aussi comprendre c'est quoi la ruche politique. On voit souvent le premier ministre ou encore les ministres comme étant les leaders de leurs équipes, mais qui travaille en arrière et c'est quoi les postes clés? Il nous a fait un cours 101, enfin, il nous a préparé ça, un petit cours 101 pour démêler, en fait, qu'est-ce que cette ruche politique. D'abord et avant tout, à Québec aujourd'hui, c'est gris. C'est gris, mais c'est chaud, 3 degrés. Et il pleut depuis ce matin dans certains secteurs. Ce sera ça pour toute la journée de la pluie intermittente ou de la bruine, en fait. Maximum de 3. On a déjà touché le maximum à cette heure-ci, 10h03. Ce soir et cette nuit, 60% de possibilités d'averse ou de neige, en fait, tout dépendant. Vous êtes où? Êtes-vous plus au nord? Si oui, ce sera de la neige avec un maximum de moins 1. Demain, jeudi, 0 degré, généralement nuageux, et on retrouve le soleil à 0 degré vendredi aussi à Québec. Salutations à Thomas Gauthier qui est en studio et qui me permet là, de faire cette émission-là à distance. Et il sera là-bas aussi pendant que Yannick et moi, on sera au Salon de l'Auto. Puis je ne sais pas si Tom m'entend, mais merci beaucoup de faire ça. C'est sûr qu'il m'entend. C'est quoi cette question-là? Il est en studio puis écoute l'émission avec vous. Mais salutations à Thomas Gauthier également et à tous mes collègues qui gardent le phare à la station pendant que nous, on s'amuse au Salon de l'Auto. Il y a déjà des gens, c'est ça qui est fascinant, de tous âges, en fait, qui se promènent. Puis il y a beaucoup d'enfants. J'avais oublié que c'était la semaine de relâche. Si vous souhaitez faire une activité différente, les amener ici, je pense que ça peut faire plaisir. Il y a des petits gars qui passent depuis tantôt puis sont comme, je veux voir la Lamborghini, celle-là m'intéresse, elle est vraiment belle. Donc, il y a des jeux gonflables aussi. Il y a vraiment des activités pour tout le monde ici, puis surtout des découvertes pour tout le monde. Voiture électrique, ça vous intéresse, vous avez des questions à poser, c'est aussi l'endroit pour se mettre dans le bain puis découvrir les nouvelles tendances. On s'installe. Je vous invite à prendre votre café comme d'habitude, le petit café qui nous accompagne pendant l'heure CV. Le mien est déjà pris, donc vous, allez vous couler ça à ma chaîne à café pendant Coriace. Jamais, jamais à Boulevard 101. On revient dans un instant. Merci d'avoir choisi l'heure CV. De retour à l'émission en direct du Salon de l'Auto de Québec. C'est au centre de foire, plein de stationnements encore, plein d'exposants sur place. Je pense que c'est une magnifique période en ce moment pour venir parce que vous allez avoir le temps de parler avec les exposants de votre choix. Il y a des gens, mais ça commence à arriver tranquillement avec le petit café du matin, du mercredi. Puis ils sont tous disponibles pour vous. Puis en plus, ben nous, on a une belle tente boulevard. Yannick sera là tantôt. Et on vous y invite parce que c'est pour ça que vous entendez un petit brouhaha en arrière de moi. On est en direct aujourd'hui, demain et vendredi du Salon de l'Auto de Québec. Par contre, les textos fonctionnent. Si vous voulez communiquer avec moi au 88-971-1021, je vous vois, en fait, j'attends vos salutations. Je veux qu'on reste dans notre petite gang habituelle à Boulevard 101. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Twitch, je sais qu'on a fait une petite pause là, en étant au Salon de l'Auto. On vous invite plutôt à venir en personne. C'est encore mieux, hein? Mais sinon, 88-971-1021, c'est par texto qu'on communique. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, en fait, à faire le tour, là, quand on regardait dans les faits divers, il y a la guerre entre les groupes de trafiquants de drogue qui n'est pas terminée, puis ça fait encore réagir aujourd'hui dans l'actualité. Beaucoup d'arrestations la semaine dernière, entre autres deux hommes de 37-42 ans qui ont été blessés dans une agression à domicile autour de 19 heures hier soir. Il y a plusieurs individus cagoulés qui seraient entrés dans un logement de la rue Saint-Sauveur, dans le quartier qui a le même nom, là. Et les deux occupants ont eu des blessures légères, heureusement, mais l'un d'eux par arme blanche. Ils ont été transportés à l'hôpital. On va soigner des blessures là-bas, mais ça met pas leur vie en danger. Par contre, il y a beaucoup d'informations de renseignements criminels qui laissent croire que ça peut être relié au conflit entre les groupes criminalisés. Alors, cette fois-ci, ça sévit dans le quartier Saint-Sauveur. Et l'enquête est menée par le projet Malsain. Vous la connaissez, là, en fait, cette organisation-là qui lutte contre la violence liée au trafic de stupéfiants et de crimes organisés. Donc, l'opération Scandaleux qui est toujours en cours, qui fait en sorte de tenter d'arrêter le plus de personnes possible, d'avoir l'information des deux groupes qui s'opposent, soit les Hells Angels et la Blood Family Mafia, un groupe de trafiquants indépendants dans le monde des stupéfiants qui en a pour de la violence envers les Hells Angels, en a pour le territoire des Hells Angels et le commerce des fameux Hells Angels. Et c'est mené par le fameux Dave Picturmel, qui est toujours recherché, qui serait outre-mer et dont vous connaissez maintenant l'identité. Bien que ce soit un homme qui était, somme toute, dans les petits criminels il n'y a pas si longtemps déjà. Série d'incendies à Donnacona, on recherche un pyromane. C'est la SQ, en fait, qui vous demande des informations. Il y a au moins 6 feux qui auraient été allumés en une seule nuit par ce suspect-là. Une demi-douzaine d'incendies qui sont considérés comme suspects. Et ça a été allumé dans les poubelles de Donnacona et ça a causé d'importants dommages. Donc, mercredi matin, si vous avez vu des pompiers, c'est pour ça. Premier brasé, c'était sur l'avenue des Prés et ça s'est propagé dans un bac à ordures, un abri temporaire, un abri tempo comme on connaît, dans une voiture aussi, puis à la maison. Donc, les occupants ont été évacués, mais ça cause des dommages beaucoup plus importants que juste brûler la poubelle. Quand vous allez voir les images, là, en fait, ça a vraiment monté sur le côté de la maison. Ça aurait pu être une perte totale si jamais on n'avait pas eu de détecteur incendie à l'intérieur et qu'on ne se serait pas rendu compte, justement, que la maison brûlait en partie. Dans les nouvelles aussi, ce qui est à surveiller et à prendre acte aujourd'hui, c'est la fuite de données chez Desjardins. On écarte les poursuites envers l'ex-employé qui était visé. Hey, ça fait 5 ans qu'on est là-dedans. Après le vol de données qui a touché, je vous rappelle, 9 millions de membres Desjardins. Là, on écarte les poursuites. On dit que la position est de travailler là où on a du contrôle, soit à la sécurité des données, à la sécurité de toute cette gestion, en fait, de la Caisse populaire. Et c'est le président de la chef la direction, Guy Cormier, qui dit qu'il n'y a plus d'échanges avec les policiers, là, que finalement, on va se concentrer sur le mouvement Desjardins, la sécurité à l'interne. Je vous rappelle que c'est un ex-employé qui était soupçonné d'être à l'origine de l'importante fuite de données qui avait été dévoilée en juin 2019. Ça fait longtemps, là. On avait parlé de ça en masse, puis il y avait bien des clients qui étaient inquiets. Je ne sais pas si vous, vous aviez eu des relents de tout ça, que vous aviez vécu, en fait, cette situation-là et que ça avait eu des dommages importants dans vos finances, dans votre vie. Je sais qu'on s'était fait, en fait, encourager à aller s'inscrire à des alertes quelconques, mais il y a des gens, finalement, qui ont vu leur situation financière changer par cette fraude. L'employé, quand même, on l'a congédié. Pour l'instant, c'est là où on en est toujours depuis tant d'années. Et il y a beaucoup maintenant d'employés qui ont été attitrés à la sécurité, au bureau de sécurité chez Desjardins. Maintenant, 1500 employés. C'est-tu assez? Est-ce qu'il faudrait réagir en amont et non réagir après un genre de vol de données comme ça? Bien, c'est toujours la question qu'on se pose, mais encore là, ça nous ramène à ce que notre expert en sécurité informatique à l'émission dit toujours, Patrick Mathieu. Bien, il faut essayer de se pirater soi-même pour s'assurer qu'on ne se fera pas pirater avant que ça arrive. Hein? C'est toujours quelque chose d'important. Et une nouvelle sous la plume d'Émilie Pelletier dans Le Soleil. Une épaule disloquée qui a coûté 4 500 $ à la Ville de Québec. La Ville est condamnée à payer ce montant-là pour une chute. Et cette chute-là a causé la dislocation de l'épaule d'une spectatrice dans un escalier qui était mouillé dans les gradins du pavillon de la jeunesse. Donc, ça remonte à 2018. Et cet hiver-là, Isabelle Pince-Main a chuté, a descendu l'escalier des gradins, puis essayé de s'agripper à une rampe pour freiner sa chute, mais elle s'est disloquée l'épaule. Et ça va coûter à la Ville maintenant 4 500 $. Elle était allée au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec à Exposité. Et bon, elle tient Québec responsable de sa chute. Elle explique que c'était des marches de béton, de métal. Et il y avait de la présence d'eau sur les marches. Ça les a rendues très glissantes. Et au départ, elle réclamait 15 000 $ à la Ville de Québec pour compenser cet accident-là et toutes ses pertes financières et physiques qu'elle a eues. Donc, elle prend une part du blâme. Elle dit que la dangerosité de l'escalier en cause, bien, elle aurait pu peut-être mieux la voir, mais quand même, elle retombe le tout sur la Ville de Québec et c'est 4 500 $ qu'on devra payer en tant que contribuable et la Ville de Québec pour cette mauvaise gestion, en fait, de l'escalier. Quand on regarde le pourquoi elle demandait autant d'argent ou encore qu'est-ce qu'elle va réussir à avoir, c'est qu'elle demandait 260... C'est le fun d'avoir la ventilation des coûts. 275 $ pour les vêtements qu'elle portait à ce moment-là, qu'on a dû couper à l'hôpital. 16 $ pour le coût des deux billets pour la partie de hockey. 3 000 $ pour les pertes salariales pour la période comprise entre la date de la chute et le mois de décembre 2018, là où le tribunal a accordé d'entendre sa cause. 300 $ pour les frais d'ambulance, 10 $ pour les frais de stationnement. T'sais, on a vraiment pris le temps de tout réclamer. 800 $ pour les frais de déneigement de sa toiture, de son entrée au cours des hivers 2019 à 2024 parce qu'elle pouvait pas le faire. Puis c'est même en fait accepté par le tribunal. On lui a donné là, un tiers des frais de déneigement de la toiture. 1 400 $ pour le remboursement de frais en massothérapie engagés à compter du mois de juin 2020. Les pertes de revenus occasionnées aussi dans le contexte de l'opération de son service de garde qui a dû être un peu ralenti avec le fait qu'elle pouvait pas prendre des poupons dans ses bras. Et 500 $ en perte non pécuniaire. C'est fascinant de voir les réclamations qui sont faites dans ce dossier-là, mais effectivement, probablement qu'il y avait à faire attention pour la Ville de Québec à bien déneiger. Il y a une responsabilité, oui, de la Ville, mais il y a peut-être une responsabilité citoyenne, et c'est là où le tribunal a tranché. Vous en pensez quoi, vous? 418-971-1021. 10h16 dans quelques instants, on reçoit Jérémy Guillot. J'ai envie de lui parler, à cet expert en politique et directeur chez TACT, de tout ce qui se passe en immigration en ce moment au Québec. Rififi encore une fois entre Ottawa et la province. Pourquoi est-ce que c'est toujours Québec qui se chicane avec Ottawa? Ça aussi, il va essayer de nous clarifier. On est une province un peu plus indépendante dans bien des dossiers et dans celui de l'immigration, c'est le cas. Et c'est très important d'en jaser en ce moment. Avec lui, on va essayer d'éclaircir le tout et de parler aussi de comment est monté le gouvernement. C'est quoi la ruche d'abeilles? Qui est important, finalement? Est-ce que le premier ministre l'est vraiment? Est-ce que les ministres le sont aussi? Courte pause et on revient avec Jérémy. Merci d'avoir choisi leur CV. Je m'appelle Pascal et je vous accompagne jusqu'à 11h. Et je m'en vais rejoindre un de nos collaborateurs ici à l'émission, Jérémy Guillot, qui est directeur chez TAC, qui a travaillé longtemps en politique. Salut, Jérémy.
Salut Pascal.
Ça brasse beaucoup ces temps-ci dans l'actualité, entre autres avec les dossiers d'immigration. On dirait qu'il y a un bras de fer entre Ottawa et Québec. Puis on se demande en plus pourquoi c'est toujours envers Québec. Mais d'abord et avant tout, peux-tu nous expliquer pourquoi l'immigration prend autant de place au Québec et à Ottawa et que ça semble si houleux comme dossier?
Bien, d'abord, je suis pas un spécialiste de l'immigration en tant que tel. Mais ma compréhension du dossier en ce moment, quand je parle à Québec, quand je parle à Ottawa... Il faut comprendre qu'au Québec, on a une situation très particulière en matière d'immigration. On est la seule juridiction au pays à déterminer nos cibles d'immigration permanente. Ça veut dire que le Québec a un peu un droit de veto, détermine combien d'immigrants vont arriver sur son territoire et vont aussi sélectionner, notamment sur certains critères, comme celui de la langue. Mais là où le bât blesse en ce moment, c'est que, et des aveux même de la ministre Christine Fréchette, c'est long en ce moment, les délais sont très longs pour ce qui est des certificats de sélection qui sont autorisés. Là, c'est des certificats qui autorisent les gens à venir ici. Et là-dedans, il y a des délais très longs et ça a un impact sur la réunification familiale. Donc, la réunification familiale, c'est quand, par exemple, quelqu'un est déjà établi au Québec et veut amener un proche de sa famille directe. C'est ce que le ministre Miller reproche au gouvernement du Québec, d'avoir des délais trop longs, et il veut imposer au Québec un rattrapage, alors que le Québec se défend et dit, ben, vous n'avez pas le droit de faire ça, le gouvernement fédéral, vous empiétez dans mes juridictions, dans ce qui relève de notre compétence.
En même temps, c'est pas bien vu que le fédéral exerce une genre de vigile sur tous ces dossiers-là, vu l'importance de l'immigration, vu les dossiers qui sont chauds, tout ce qu'on voit dans l'actualité, les médias de familles qui doivent retourner dans leur pays ou encore qui seront séparés. Puis j'ai une autre question là-dedans, Jérémy. Pourquoi est-ce qu'on parle constamment du Québec, de la relation Ottawa et Québec, et non des autres provinces quand on parle d'immigration?
C'est jamais bien vu au Québec quand Ottawa essaie d'empiéter sur les compétences du Québec. Le Québec a une particularité à travers la Confédération canadienne. Il y a notamment des choses qu'on a déjà fait, qu'on a été des précurseurs. Là, on parle beaucoup d'immigration parce que le Québec est la seule province à avoir un veto sur l'immigration.
Ah, c'est pour ça.
Mais souviens-toi aussi quand on parlait, par exemple, du système de garderie. Le gouvernement fédéral a mis en place un système de garderie à tarification unique à travers le pays. Mais ce système-là est un calque du système du Québec. Notre système de CPE à 10 $ par jour, ça existe déjà ici. Donc, il y a un bras de fer à ce moment-là entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa pour aller chercher les sommes qui nous reviennent en tant que Québécois et Québécoises pour contrebalancer, en fait, l'argent qui est octroyé aux autres provinces, comme nous, on a déjà un programme comme ça. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que Québec et Ottawa sont en porte-à-faux et sont toujours en discussion très tendue pour aller chercher plus d'argent.
Mais c'est pas avec l'argent
qu'on... C'est pas juste dans l'immigration, là. C'est vrai en garderie, c'est vrai dans le système de santé, c'est vrai en immigration aussi. C'est vrai dans plusieurs dossiers.
Mais justement, ces dossiers-là sont quand même étoffés ces jours-ci, même, je dirais, lors des dernières années. On a l'impression que plutôt c'est des discussions et non des avancements. J'aimerais ça qu'on discute ensemble parce que tu as travaillé longtemps en politique sur tout ce qui est en arrière du premier ministre ou tout ce qui est en arrière des ministres. On s'entend que les équipes travaillent très fort, les staffers qu'on peut appeler, là. Mais on n'en parle pas souvent d'à quel point ils ont du poids, en fait, ces individus-là derrière un ministre, derrière un premier ministre. Puis avec les dossiers aussi importants qu'on gère ces temps-ci au gouvernement, peut-être faudrait mettre en lumière leur travail. Du moins, peut-être qu'ils aiment être dans l'ombre. Aimais-tu ça être dans l'ombre, toi, dans le temps?
Bien, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai adoré faire. C'est des travailleurs de l'ombre, ces gens-là qui donnent des heures qu'on ne peut même pas imaginer. Moi, quand j'étais à l'Assemblée nationale, on arrivait au bureau à 6 h, 6 h moins quart, puis on partait pas avant 8 h, 9 h le soir. Là. Et c'est vrai pour Ottawa aussi. Ottawa, ça commence un petit peu plus tard, étant donné les horaires des médias, mais c'est des gens qui font beaucoup d'heures. Puis c'est complexe, c'est une ruche d'abeilles. Hein? Derrière, moi, je suis toujours le meilleur ministre, soit-il, est aussi bon que son équipe. Un Christian Dubé, par exemple, ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait dans le système de la santé, toutes les réformes qu'il entreprend, sans avoir une équipe solide à côté de lui.
Mais là, c'est gênant pour Éric Kerr avec sa dernière mise à jour de la SAQ. Là. c'est gênant pour son équipe, dire ça comme ça?
Bien, c'est, les, chaque ministre est aussi un peu responsable de qui ils s'entourent et de comment ils veulent s'entourer. Là. Après
c'est
ça, ça leur appartient.
Ça fait de la politique, Jérémy.
Moi, je vais pas qualifier les équipes, mais les résultats des ministres.
Oui.
C'est un très bon ministre qui s'entoure mal va pas bien performer. Et l'inverse est aussi vrai. Un ministre qui connaît là où il doit, où il y a des lacunes, où il est... Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est comme dans la vie quotidienne, c'est pas tout le monde qui a les mêmes forces, c'est pas tout le monde qui est un excellent communicateur, c'est peut-être pas tout le monde qui est excellent à travailler ses groupes de pression. Donc, c'est d'aller combler là où il y a des manques. Parce qu'un cabinet, de la façon dont c'est structuré, il y a trois piliers fondamentaux. Il y a les communications, qui est les relations avec les médias, les communications sur les réseaux sociaux, etc., les discours. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les politiques. Donc ça, c'est le département qui est en charge de faire les relations avec les différentes organisations qui sont membres de notre ministère. Par exemple, on est le ministère de l'Éducation. Ben là, les enseignants, les syndicats, les écoles, les parents, etc. Et le troisième pilier, c'est les affaires parlementaires. Ça, c'est ce qui est pour les gens qui nous écoutent, là, le moins concret de tous les trois, mais c'est le quotidien à l'Assemblée nationale, les commissions parlementaires, les questions en chambre, le travail législatif, les projets de loi, etc. Et ces trois éléments-là doivent tous avancer dans la même direction pour qu'un ministre puisse réussir à faire atterrir ses dossiers. Parce que enlève un élément, et là, enlève les relations parlementaires, là, tu fais ton annonce, mais tu as tout ton caucus qui est fâché après toi et vice-versa si un des éléments n'est pas fait.
OK, donc il faut que ça suive. Est-ce que ces équipes-là, soit les trois équipes que tu viens d'évoquer, travaillent de concert à chaque jour quotidiennement avec des meetings et autres, ou on fait des comptes rendus au mois? Ou puis sinon, est-ce que le ministre est au courant à chaque jour des avancées de chacune de ces équipes-là?
Le ministre visiblement ne peut pas être au courant de tout chaque petit détail. C'est comme un CEO d'entreprise. Quand on a notre propre entreprise, les gens qui sont entrepreneurs vont comprendre ça. On n'est pas en charge des livraisons, de la relation avec les clients, puis des ventes, puis de la relation, des communications de notre entreprise. Quand ça monte à nous, c'est parce qu'il y a un problème. Idéalement, on essaie qu'il n'y ait pas de problème. Le ministre va donner des grandes orientations stratégiques de où il veut s'en aller. Et là, l'équipe va prendre la balle au bon et va s'arranger de faire atterrir ça. Par exemple, si on a une annonce en matière d'immigration et qu'on annonce qu'on va limiter les seuils d'immigration au Québec, bien, on va vouloir, un, s'assurer que le caucus réagisse comme il faut. On va vouloir attacher les fils avec des organisations qui vont être enclines à appuyer notre initiative. Et on va vouloir aller faire des petites relations, des relations médias, peut-être parler à quelques chroniqueurs, quelques journalistes en avance pour s'assurer que notre message passe bien. Et là, si ces trois éléments-là sont alignés, on améliore nos chances que notre annonce soit réussie. C'est hautement stratégique. Et là, c'est simplifié au maximum, là, mais de façon générale, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans un cabinet ministériel.
OK, mais c'est intéressant. Donc là, admettons qu'on revoit la ruche, tu vois, le bureau du premier ministre, que tu m'as déjà qualifié comme étant la tour de contrôle.
Oui,
de
qui
tout
donne
ce qui
les directions au bateau. Le chef de cabinet des différents ministres, qui est un peu comme le capitaine à bord, qui guide son bateau. Et là, tu as tes trois piliers, les communications, les affaires parlementaires et les politiques.
Oui, OK, parfait. Et si maintenant je te demandais deux personnes clés, autres que le premier ministre ou le ministre dans tout ça, tu me nommerais?
Moi, je dirais le chef de cabinet, qui est un peu le bras droit du ministre ou du premier ministre. On entend souvent parler de Martin Koskinen, notamment avec François Legault, qui est son bras droit depuis toujours, qui est sa personne de confiance. On le sait, quand le chef de cabinet parle, c'est un peu l'extension du patron. C'est un peu l'extension du ministre ou du premier ministre. Et là, c'est peut-être un petit penchant parce que je l'ai été, mais l'attaché de presse est aussi extrêmement important. C'est un rôle qui est souvent négligé, qu'on a tendance à voir juste comme quelqu'un qui parle avec les médias. Mais c'est aussi la personne souvent qui va passer le plus de temps avec le ministre. Donc, si l'attaché de presse est convaincu de quelque chose, on est tous humains, on parle, on a des conversations. Fait, le ministre va souvent être influencé par la position de son attaché de presse, comme il passe énormément de temps la plupart du temps avec cette personne-là.
OK. Est-ce que c'est un peu comme son adjoint ou son adjointe ou ça va... Non. OK, c'est vrai.
Non. L'attaché de presse, c'est vraiment... il est attaché au département des communications. C'est juste que souvent, quand un ministre va partir en tournée, par exemple, dans différentes régions du Québec, ben il y a la personne responsable de cette région-là ou du dossier qu'il va porter, qui va voyager avec le ministre, et l'attaché de presse.
Okay,
l'attaché de presse va être dans la majorité des voyages des différents ministres. Les adjoints de ministres sont basés au cabinet, s'occupent de l'agenda ministériel, que tout est indiqué, que les déplacements sont indiqués. Les ministres commencent très tôt, finissent très tard. Donc, on a des horaires extrêmement chargés. C'est des joueurs étoiles, les adjoints, mais ils sont basés très souvent de Québec.
C'est distinct. OK, la question pour terminer l'entrevue avec toi, Jérémy Guillaume. Qui est plus à risque de se faire taper sur la tête dans toute cette belle gang-là? Qui a le rôle ingrat, selon toi?
Je reviendrai aux deux personnes clés. Hein, le chef de cabinet et l'attaché de presse. L'attaché de presse est plus à risque de se faire taper sur la tête, notamment quand il parle avec les médias. Parce que souvent, son nom va sortir dans les articles. Donc, si on dit quelque chose trop rapidement, pas assez rapidement, on dit quelque chose qui est faux, souvent, on peut peut-être être la personne blâmée sur la situation. Et le chef de cabinet est la personne imputable de toute cette grosse équipe-là. Souvent, les chefs de cabinet vont prendre la balle pour son équipe si jamais il y a une balle qui est échappée. Donc, en même temps, les personnes qui sont les plus visibles sont aussi les personnes qui sont plus à risque de se mettre la tête sur le bûcher.
Merci beaucoup, Jérémy Guillot, directeur chez TAC. Tu as travaillé longtemps en politique, puis tu viens de nous faire un cours en un sur la ruche politique. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, Pascal.
On est de retour dans l'heure CV à Boulevard 102.1 en direct du Salon de l'Auto au Centre de Foire. Si vous avez envie de venir, on est là toute la journée. Yannick vient d'arriver, puis déjà, il fait sa princesse. Là. Il cherche la plus belle voiture dans laquelle il pourrait se pavaner devant tout le monde. Il est quand même impressionné de l'endroit où on est. Je vous dirais, on est dans le petit quartier Roulé Passion. Là. On l'appelle le petit quartier dans le Salon de l'Auto. Des Lamborghini, ça vous tente de voir ça. Des Porsche décapotables. On a les plus belles autour de nous. Puis, c'est le temps de venir maintenant parce que les experts sont disponibles pour vous. Il y a des gens, mais on n'est pas encore au pic de la journée. Alors, ils vont prendre le temps de jaser avec vous. C'est ce qu'on disait. À la météo aujourd'hui, c'est 3 degrés. On a touché le maximum déjà pour la grande région de Québec. Et c'est la pluie. Alors, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais on est mouillé aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir en profiter prochainement pour aller juste... Mais Yannick, es-tu tannant? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Yannick, il est arrivé. OK. Donc, Tom, on peut ouvrir son micro. Je ne sais pas si c'est toi qui fais ça, là. C'est Tom qui peut ouvrir son micro?
Allô?
Ah, salut Yannick.
One, two.
Je disais que tu étais parti faire un tour au Salon de l'Auto pour trouver quelle belle voiture de princesse te ferait filer le mieux au volant.
Je pense que je suis tombé en amour avec tous les véhicules exotiques.
Ah, c'est ça que tu allais dire, moi. OK. Véhicule exotique du genre. C'est quoi un véhicule exotique, Yannick?
Écoute.
Y a-t-il une panthère dessus?
C'est la Bugatti Veyron, hein, Jordan, qu'on a vu? Ouais, Bugatti Veyron. C'est ton genre de voiture, je pense aussi. Elle est magnifique. Elle est autour de 8 millions de dollars.
Ah, ça veut dire qu'après, on pourrait aller se l'acheter.
Oui,
puis,
c'est ça.
C'est une petite dépense. Es-tu celle qui arrive en camion puis qu'il y a une personne qui va la reculer dans le salon de l'auto, mais elle ne roulera jamais sur les routes?
Oui, effectivement. Ça peut être ça. J'ai vu le Cybertruck aussi qui est très, très, très impressionnant. Il est juste derrière le kiosque de Boulevard. Nous, on est situé dans le gros kiosque de Roulé Passion.
Ouais.
On a notre petit kiosque de Boulevard. Puis derrière, il y a le Cybertruck.
Comment tu le trouves en vrai? Parce qu'il est tellement critiqué.
Mais moi, je le trouvais correct au départ. Moi, j'aime les choses qui sont différentes, qui sortent du lot. Puis le Cybertruck, c'est carrément ça. Il y a eu une grosse campagne de où on a dénigré ce camion-là, peut-être avec raison là, ou à tort, je sais pas. Moi, j'aimerais ça l'essayer au moins une fois pour me faire une idée. Mais il sort de l'ordinaire. Puis quand tu sors du centre d'achat, tu sais, il est où ton char?
Oui, si on te l'a pas volé, là,
non, ça
doit être quand même une proie intéressante, ce véhicule-là.
Tu sais, on dirait que les véhicules, ils ont plus de personnalité. Ceux qui sont un peu plus vieux, qui font partie des autres générations, Pascal, vont comprendre ce que je dis, c'est que Tu sais, dans les années 60-70, il y avait des fameux muscle cars et tout ça.
Oui.
Bien, eux autres, là, ils personnalisaient leur voiture. Là, aujourd'hui, tu achètes une voiture qui vaut 70-80, tu sors du centre d'achat, puis t'as plein de voitures comme la tienne. T'en as 10, 15, 20, puis là, tu te dis, pas, il est où mon char? Puis des fois, tu te ramasses dans un char qui était même pas le tien.
Toi, t'aimes ça un peu modifié à la personnalité de du conducteur ou de la conductrice.
Oui. Ça, c'est mon char.
Ah, moi, j'aime ça quand ça passe un peu plus incognito. Comme vois-tu, on est face à un Bronco en ce moment, là. Je le trouve magnifique. Mais je l'aurais pris noir, pas rouge, tomate.
Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui aiment ça, les couleurs qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, juste le Jeep qui est juste à côté, là,
oui.
Un genre de jaune, là, pas un jaune serein.
Jaune
là.
Marqueur.
Jaune un, marqueur.
Un surligneur, là. Exact. C'est vraiment le même jaune.
Ça, tu tripes un été. Au deuxième été, tu dis, ouais, peut-être j'aurais dû le prendre noir, moi.
Hey, mais parlant de peinture mate, là, j'en avais déjà vu des voitures mates, mais celle-là, à gauche de nous, là, les rouges mates. C'est magnifique, une peinture comme ça. Tu trouves pas que ça donne un petit look intéressant, un peu Batmobile? Ou...
Est-ce qu'on dit rouge mat ou rouge mat?
Ça doit être rouge mat.
C'est vrai?
Est-ce que ça s'accorde?
Je sais pas, c'est une bonne
vérifier,
question.
Notre français est
Mais
défaillant.
Ça, c'est une genre de pellicule qu'on ajoute sur la peinture pour la protéger ou encore pour changer ton véhicule de couleur. Puis après ça, t'enlèves cette pellicule-là puis la peinture est encore comme neuve, là. Il y a plein de monde actuellement qui s'achète des véhicules neufs qui mettent une pellicule comme ça, puis ils peuvent la mettre soit mat ou encore exactement de la même couleur que la peinture.
Okay.
Puis si tu reçois des roches là-dessus, tu n'as pas d'inquiétude.
C'est protégé. Ouais, c'est sûr protégé. Que si tu as la belle Porsche derrière nous, tu as envie qu'elle soit protégée aussi.
Bien, c'est ça, exact.
Yannick, on fait Marceau le midi aussi en direct du salon de l'auto. Là, tu prends ton petit café. Vas-tu être prêt ou tu n'as rien préparé, te connaissant?
Non, j'ai rien préparé.
OK. Je vais te faire un petit quiz, OK, pour être en thématique avec le salon de l'auto. Tu es prêt?
Vas-y.
OK. Là, arrête de regarder la feuille, là. Je veux dire, triche pas. Si tu avais une seule voiture à avoir pour le restant de tes jours, là, je te parle pas d'une marque en particulier, je te parle d'un modèle décapotable ou plus sportif. Ou bon.
Les Mustangs des années 60.
Pourquoi?
Parce que ça représente un peu ma personnalité.
OK. Je te donne...
La liberté.
Je te donne un, entre parenthèses, bazou à chaque année.
Oui.
OK. Mais il change tout le temps. Puis tu as le choix de celui que tu vas avoir d'année en année ou je te donne la voiture de tes rêves une seule fois et tu n'as pas le droit de réparation sur sa carrosserie. Tu n'as pas le droit de faire modifier quoi que ce soit, mais tu as ta voiture de rêve une seule fois. Puis si elle est brisée, tu fais un accident, c'est terminé, là.
C'est le bazou.
C'est le bazou, ouais. Qui change à chaque année. C'est quoi la pire voiture que tu as eue?
La pire voiture, Dodge Colt, en fait, la pire, c'est plus parce qu'elle était vraiment maganée, là. On voyait le jour au travers le plancher. Mais ouais, c'est pas mal la pire voiture. J'avais payé ça 50$. C'était pour la scrap. Puis, ben moi, j'étais jeune étudiant à l'époque. Je me suis dit, 50$, c'était un bon investissement.
Ça t'avait coûté 50$?
Ouais, ben il donnait 50$ dans le temps quand t'allais porter ton véhicule à la scrap. Puis moi, j'ai dit au gars, ben regarde, ton véhicule est encore sur le pouvoir, je vais le prendre. Finalement, j'avais pratiquement pas de frein, j'avais pratiquement pas de pneus, totalement irresponsable. Mais t'as fait 2 ans quand même.
Qui dit pire? 88-971-1021. Yannick, une question macho pour toi. Aller dans ta thématique de personnage.
Oui.
Je te permets de conduire une dernière fois une voiture. Et après, c'est terminé, tu prends le transport en commun. Ou c'est une femme qui conduit la voiture que tu utilises à tous les jours pour te déplacer jusqu'à la fin de tes jours.
J'ai pas de problème à me faire conduire quand je suis chaud.
Donc, la réponse...
Je serais tout le temps chaud.
Tu serais tout le temps chaud comme passager,
ouais,
même avant d'aller travailler et tout.
Oui, exact.
OK. Voiture d'été, qu'est-ce que tu aimerais avoir?
Wrangler.
Pourquoi?
Ben,
tu en as déjà un. Donc, t'aimes ça, t'es vendu?
On enlève le toit, puis ça passe partout, puis c'est du plaisir. Ça
c'est
passe.
Du plaisir. C'est comme dans les bancs de neige, ça passe partout. Dernière question du dit quiz, Yannick.
C'est un quiz préparé, ça?
Oui, absolument.
Oui, d'accord.
Oui, c'est un quiz pour toi. En ce moment, OK, t'évalues à combien de personnes il y a dans le salon de l'auto?
Ah, oh, pas loin de 2-3 000 personnes, certains.
En ce moment?
À peu près, oui.
Parce que toi, tu t'es promené?
Mais il y a de l'espace en masse pour tout le monde. Là. Je sais pas c'est quoi, quand c'est rempli à pleine capacité, là. Je sais pas c'est quoi la quantité de personnes, mais il y a à peu près 2-3 000 personnes, certains. Puis ce que j'aime, c'est que je vois beaucoup d'enfants, je vois beaucoup de
C'est
gens.
La semaine de relâche, j'avais
mais
oublié
oui,
quand je suis arrivée.
Je vois beaucoup de gens avec leur petite fille, leur petit gars, puis tout le monde a l'air à triper sur les voitures.
Il y avait 4 petits gars,
beauté,
tantôt, ouais. Qui étaient plus excités que leur père.
Ben oui.
Ils étaient sortis en gang de gars, là, puis ils se passait ici puis il disait « Je veux voir la Lamborghini, je veux embarquer dedans. » Bon, tu peux pas trop là, embarquer dedans, mais tu as dit 2 à 3 000 personnes au Salon de l'Auto en ce moment.
À peu près, oui.
Retenez ça, les auditeurs, ça va vous servir pour un concours dans la programmation de Boulevard 102.1. Aujourd'hui, merci Yannick Marceau. On se retrouve dans quelques instants dans Marceau le midi. Tu peux aller faire ton tour, là. T'es
merci.
De rester avec moi.
Allez!
Tom, de l'autre côté du micro, le temps d'envoyer la chanson, en fait, qui va t'accompagner, toi aussi, en studio. Tom Gauthier, qui est notre acolyte de l'heure du lunch, puis qui va nous aider à faire la mise en onde, parce que Yannick Marceau et moi, on est au Salon de l'Auto pour toute la journée, et on répète ça jusqu'à vendredi. Donc, vous pouvez passer nous voir sous la tente Boulevard, aujourd'hui, demain et vendredi. Grand frère de Soulja et Jay Scott, dans vos oreilles à Boulevard 102.1. Leur CV est en direct du Salon de l'Auto de Québec. C'est au centre de foire et on commence à avoir de la belle visite sur place. Différentes générations. Non, c'est pas toi, Yannick, la belle visite sur place. Il fait signe. Bonjour, bonjour. Des adultes, des enfants, des personnes à la retraite, des ados. Il y a de tout. Les générations ici. Puis c'est ça qui est fascinant. Les Lamborghini, je vous dirais, attirent énormément l'attention. J'ai hâte de voir de l'autre côté de la tente Boulevard si le Cybertruck a la même attention. Mais assurément, vous allez en avoir pour votre argent. Ça coûte pas cher venir ici. Puis les jeux gonflables sont officiellement montés pour ceux qui ont envie de venir avec toute la famille. Là. Il y a la zone de jeux gonflables, de jeux d'adresse disponible pour les enfants. Et il y a aussi une piste de karting intérieur pour faire tester ça à vos enfants de 12 ans et moins. C'est pas mal la place, ouais. Aller s'amuser pendant la semaine de relâche. Tom est en studio, on va le rejoindre dans un instant. J'ai envie quand même de jaser avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle émission, puis je sais que c'est le genre de sujet qui vous intéresse. Alors, c'est vu, on en parle régulièrement. Mais autrement dit, en amour, c'est Marie-Lou de 3 fois par jour qui a monté ces émissions-là. En fait, il y a Autrement dit en amour et il y a Autrement dit en sexualité aussi. C'est offert sur tout.tv. Et elle fait le tour avec différentes intervenants sur bien des sujets, entre autres sur l'engagement, la fidélité, les fondations d'un couple, la communication. Puis, dans cette nouvelle série qu'elle offre sur la sexualité, c'est pas une histoire de genre comment avoir du bon sexe ou autre. Le Marie-Lou est allée plus loin que ça. C'est qu'est-ce qui nous définit dans la société par rapport à cette sexualité-là. C'est d'excellentes séries qui, selon moi, n'ont pas eu assez de bruit sur les réseaux sociaux ou encore dans ce qu'on peut consulter. Thomas, de l'autre côté, en studio, je t'ai envoyé une capsule que j'aimerais passer pour montrer un peu aux gens, avec le sonore, une des conversations que Marie-Lou a eues avec Autrement dit en amour. Tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît.
Pascal, tu m'entends?
Oui.
Oui, j'ai rien reçu de ta part.
Ah, t'es pas capable. OK,
non,
parfait.
Oh,
on va le reprendre tantôt avec Yannick Marceau. Désolé, ça doit être un petit bug ici du réseau Internet. Bon, vous le savez, on est au Salon de l'Auto. Il va falloir faire avec certains petits bugs, mais tout va bien aller. On va s'accommoder tout au long de la semaine. Avec vendredi aussi, qu'on aura en direct, ben tout devrait être placé à ce moment-là. C'est le temps d'abord de faire une nouvelle importante là, qui parcourt le web. C'est l'ex-hockeyeur des Voltigeurs de Drummondville, Noah Carson, qui va contester son verdict de culpabilité devant la Cour d'appel du Québec. Son avocat a déposé l'avis vendredi dernier. C'est un jeune homme de 25 ans. Si vous ne le connaissez pas, c'est le fils de l'ancien joueur du Canadien, Shane Carson. Il a été déclaré coupable le mois dernier du viol collectif d'une adolescente de 15 ans et les événements remonteraient à l'automne 2016. Il évoluait à ce moment-là avec les Voltigeurs et dans sa décision, le juge Paul Dunningham avait statué que l'accusé était majeur à l'époque. Donc, il n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que la victime était âgée d'au moins 16 ans. C'est l'âge légal de consentement pour avoir des relations sexuelles de groupe. Et si Noah Carson a témoigné du fait qu'il était convaincu que la victime était âgée d'au moins 18 ans, le ministère public lui affirmait de son côté qu'il avait fait preuve d'insouciance, d'aveuglement volontaire en ne demandant pas plus d'informations. C'est vraiment une information importante, pas juste à demander, ce que je veux dire, c'est à savoir puis à discuter avec les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui se sont ramassés avec un casier criminel pour la méconnaissance du consentement dans des relations sexuelles. Tu sais, on a vu à travers le temps aussi tout ce qui est important dans diffusion de vidéos ou encore de photos. Même en couple, quand t'es mineur, tu sais pas que t'es en train de produire et de transférer de la pornographie juvénile si le jeune ou la jeune, justement, n'est pas majeur. Et c'est des accusations qui pendent au bout du nez quand même de cette classe de jeunes-là. Et ça a mené à des dossiers absolument horribles dans l'actualité. Puis il y en a qui étaient malfaisants, mais il y en a d'autres qui étaient méconnaissants aussi. Alors, c'est important d'en parler, puis c'est important d'en parler avec nos enfants. Puis je reviens peut-être à faire le pont avec cette série sur la sexualité que Marie-Lie de 3 fois par jour offre sur tout.tv. C'est vraiment intéressant. Et peut-être que ça va vous ouvrir des portes pour en jaser avec vos jeunes également. Thomas Gauthier, c'est l'heure d'aller te rejoindre en studio parce que tu ne seras pas avec nous pendant l'émission au Salon de l'Auto de Québec. Cependant, on a toute une feuille de route et c'est toi qui seras le, comment dire, maître de cérémonie.
Le Manitou.
Ça se passe bien, là? Le Manitou de tout ça. Quels sont nos invités aujourd'hui dans Marceau le midi?
Je pense que le mot est bien choisi. Pascal, on est loadé comme un gun pour le show de ce midi au Salon de l'Auto de Québec. On va commencer à 11h30, Pascal. Un sujet que j'ai vraiment adoré, qu'on a reçu par communiqué dans la dernière journée, c'est du côté d'une pharmacie, le Family Prix de l'avenue Maguire, qui va lancer une clinique de suivi spécialisée des maladies chroniques. Puis c'est un service qui va vraiment être intéressant pour les patients qui n'ont pas nécessairement accès aux médecins de famille en ce moment. On va parler à Anne-Émilie Dionne, qui est pharmacienne-chef de la pharmacie Stéphanie Ouellette.
Superbe.
Et qui aussi est dans ce dossier-là, cette nouvelle clinique-là. Donc, j'ai vraiment hâte de l'entendre. C'est tellement un bel, beau dossier. On va jaser avec elle vers 11h30. Sinon, la chronique du mercredi qui revient avec Val Godreau du Soleil. On va revenir avec, bien sûr, le Chess Gate entre Steve Verrest, Steven Dumélançon du côté de l'Hôtel de Ville. On va revenir aussi...
C'est loin d'être terminé. Et pourtant, ça devrait l'être.
Exactement. Puis on va revenir aussi sur l'investissement de 64 millions de dollars aussi de la ville du côté des infrastructures sportives. On va y revenir. Louis Gauthier, chroniqueur international,
oui,
bien sûr, pour le super mardi d'hier. Donald Trump qui a fait l'unanimité dans la majorité des États.
C'était quelque chose qu'on avait déjà anticipé,
ouais,
en fait, pour Donald Trump. On savait que ça allait se passer comme ça. C'était juste de clarifier, en fait, qu'il allait être le prochain à la course de la présidentielle contre Joe Biden, chose qu'on savait également. Au final, c'est juste d'avoir clarifié avec les gros États majeurs qui est-ce qui était la plus-value pour le Parti républicain. Louis Gauthier aura certainement son mot à dire,
ouais,
parce qu'il est allé faire un tour là, du côté des États-Unis dernièrement. Peut-être qu'il a senti quelque chose de spécial, mais en même temps, j'ai l'impression que les eaux étaient calmes parce que c'est un peu tout le monde qui était au courant de la situation. L'affaire qu'on dit souvent, par contre, c'est que l'électorat américain est un peu mal foutu, disons-le comme ça, parce que même plusieurs démocrates n'iront pas voter pour Joe Biden parce que c'était pas leur candidat et de ce fait laisseront un peu plus de place à Donald Trump, mais qui ne sont pas nécessairement pour Donald Trump non plus. Et t'as la crowd de Donald Trump qui a hâte de le revoir à la présidentielle et qui a vraiment envie qu'il reprenne en fait ses communications à l'international aussi. Louis Gauthier pourra nous orienté. Max Dubois de CA Québec, je pense qu'il sera en direct avec nous, ça se peut-tu,
oui,
au Salon de l'Auto de Québec?
Il va venir vous rejoindre, va vous jaser directement sur place, ça va être super le fun. Puis sinon, 13h, Marc Lamontagne, qui est directeur du Centre Jardin Amel, un super événement. En tout cas, j'en dis pas plus, mais vers 13h, ça va être très, très cool pour la relâche. Là, il y a une belle activité à faire, Marc Lamontagne va vous parler de ça dès 13h.
Oui! Venez nous rencontrer, on sera là et on bouge pas, du moins pendant tout le temps de l'émission. Et pour les amoureux des sucres, notez à votre agenda parce que ça commence la période des sucres, là. Puis on va l'extensionner en Beauce du 10 au 12 mai. On vous invite au Festival Beauceron de l'érable. On aime ça, le sucre, puis on fait en sorte qu'on en profite le plus longtemps possible. Mais c'est pas tout parce que oui, tir sur neige et autres, mais gala d'humour avec Louis-José Houde et Patrick Groulx. Des ondes familiales, des camions de rue, des conférences. Bref, c'est une fin de semaine pleine d'activités à mettre dans votre agenda. On sait que ça va vite, des fois, le temps. Puis le fait de le planifier d'avance, soit du 10 au 12 mai, mais ça fait en sorte que vous n'allez pas oublier ça. Pour vous procurer vos billets, c'est au Festival Beauceron de l'érable.com. Merci, Tom. À tout de suite. Yannick est à son micro, là. Il a l'air prêt, mais c'est comme d'habitude, là. Il a l'air. À tout de suite. Merci d'avoir choisi leur CV, même en direct du Salon de l'Auto de Québec.